J'aime bien éplucher les carottes.
Moi, j'aime bien parfois faire des repas tout seul, mais j'aime bien plutôt les recettes de cuisine un peu compliquées. Pas celles où on met juste les pâtes dans la poêle, enfin dans la casserole.
J'aime bien mais les gâteaux plutôt.
J'aime bien avoir des différentes étapes à faire et après ça se transforme quelque chose de cool à manger.
Ah, moi, des pâtes.
Mes sœurs, elles essayent tout le temps des nouveaux plats. Du coup, elles me font goûter et elles me demandent mon avis.
Moi, je cuisine pas beaucoup, mais quand je peux aider, j'aide.
J'aime bien tester des trucs, changer mes habitudes, et ouais, c'est un plaisir.
Et t'es plutôt en mode, tu suis un livre de recettes ou tu tentes
complètement au pif?
Les maisons, déjà, c'est plus bon.
J'aime bien, mais je sais pas trop les recettes.
Une fois, on avait acheté un truc de Marie, et c'était un archi-parmentier, c'était dégoûtant.
Des fois, j'aide papa. J'épluche les légumes ou je coupe le jambon. Nous, on n'achète pas vraiment au magasin, faut ce qu'il faut faire.
Je crois que c'est meilleur quand c'est...
Oui, parce qu'il n'y a pas tous les produits chimiques. Des fois, il y a des choses chimiques dans les plats.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je place cette émission sous le haut patronage de ma grand-mère. Elle cuisinait le meilleur riz au lait du monde avec 26 morceaux de sucre, pas un de plus, pas un de moins. Sa soupe de pommes de terre était à se damner, son chaud-froid de poulet aussi. Et surtout, avec elle, cuisiner semblait toujours rigolo. C'était beaucoup de boulot, je l'ai réalisé bien plus tard, mais elle y mettait une grosse louche de joie, de fantaisie et de jeu. Oui, voilà, c'était un jeu. Et je retiens une formule qu'elle avait inventée, les recettes à la zim zam zoum. En gros, c'est quand il n'y a pas de recette, quand on improvise les ingrédients, les quantités et le temps de cuisson à la zim zam zoum. J'ai évidemment transmis cette expression familiale à mes enfants, à défaut de recettes. Faire de la cuisine une expérience ludique et joyeuse. Voilà notre ambition cette semaine dans Barbatruc. Ça ne veut pas dire renoncer à la complexité de certains plats, parce que la fierté au moment de la dégustation est à la mesure de la difficulté. Mes invités ont des recettes à proposer aux parents pour cuisiner avec les enfants ou les ados, ou même pour les laisser se débrouiller tout seuls en cuisine. De l'autonomie, que diable! C'est parti, la cuisine, un jeu d'enfant, une émission à la Zim Zam Zoum.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Barbatruc est préparé par Margot Page et réalisé par Christophe Humbert avec Florent Layani à la technique. Et j'accueille deux invités. Bonjour Johanna Kaufmann.
Bonjour Dorothée Barba.
Bienvenue, vous êtes cuisinière alsatico-méditerranéenne. Ouais. C'est comme ça que vous vous présentez.
Ni plus ni moins.
Habitante de Strasbourg, donc avec oui. Des racines méditerranéennes. Retour chez Jojo, c'est le titre de votre dernier livre.
Retourner
chez Jojo, c'est le titre de votre dernier livre auto-édité qui est en vente sur votre site internet, Johanna Kaufmann. Très joli bouquin de recettes, pas spécialement pour les enfants, mais que l'on peut exécuter avec les enfants, ou même les confier aux enfants. Vous êtes autrice et photographe. Les photos des plats dans votre livre sont superbes, mais ça pose quand même le problème de la comparaison. Notre résultat à nous, qui lisons vos recettes, sera toujours forcément moins bien que le vôtre.
Pas du tout, parce qu'elles sont vraiment brutes de décoffrage. Non, elles sont pas du tout. Justement, moi, je m'autorise à être auteur et je m'autorise à être photographe. En fait, je le suis parce que je l'ai décrété. Mais je n'ai aucune... Je suis complètement autodidacte. Donc, les photos que je fais, n'importe qui peut les faire. Hein. Non, elles sont prises sur mon plan de travail avec deux lampes...
L'exemple du rouleau de lasagne à la mousse asperge Réfort. Regardez-moi cette photo, c'est magnifique.
C'est vraiment ce que vous aurez si vous en faites, hein, promis.
Je tente. Vous êtes plutôt du genre à suivre les recettes ou à travailler à la Zim Zam Zoum?
Je travaille complètement à la Zim Zam Zoum. Je trouvais ça euphorisant ce que vous disiez. Ça m'a rappelé qu'en fait, je crois qu'avant de me mettre à la cuisine, parce que je m'y suis mis très tardivement, je faisais du théâtre d'impro. Et peut-être que ça m'a justement autorisé à faire un peu comme je le sentais.
Estherelle Payani, bonjour.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, vous êtes journaliste et critique culinaire à Télérama. Vous avez récemment publié chez Flammarion « La cuisine des beaux restes », très beau bouquin consacré aux recettes qu'on peut faire avec des restes. Donc, vous avez aussi consacré un ouvrage au chef « 500 femmes qui font la différence dans les cuisines », édition Nourriture Fus. Vous publiez des recettes dans Télérama régulièrement, et notamment pendant le confinement, des recettes à faire avec les enfants. Ça a marché très fort. Quelle est la recette
majeure, celle qui a rencontré le plus de succès.
On m'a beaucoup parlé du chili con carne. En fait, on a procédé en deux temps. On a vraiment fait des recettes pendant tout le confinement et depuis, on a continué à les faire uniquement pour les enfants.
Le banana bread, gros succès aussi, non ?
Ah, mais parce que c'était un gros succès pour tout le monde pendant le confinement.
On avait besoin
tout
de bananes.
Tout le monde voulait. Je pense que tout le monde avait acheté des bananes et se retrouvait avec des bananes un peu noircies. Donc, c'est typiquement une recette anti-gaspi. Hein. Plutôt que de laisser sa banane faire la gueule dans le compotier, il vaut mieux la passer à la casserole.
Et vous, Estherelle Payani, vous êtes plutôt recette à la lettre ou zim zam zoom ?
Alors, moi, j'irais plutôt pif paf pouf en général.
Ah, ok. Hein,
mais ça, c'est cousin germain, c'est plus du sud, hein, puisque je suis marseillaise. Je crois que je suis devenue autrice de livres de cuisine parce que j'ai appris la cuisine dans des livres. Et que, comme chez moi, c'était pas le point fort familial, je suivais les recettes à la lettre. Et puis, en fait, très vite, j'ai remarqué que je les suivais plus du tout. Et ça me jouait pas de tour. C'était bon quand même. Ça ressemblait pas du tout à la photo, mais c'était bon.
Allez, on va tâcher de lister ensemble les règles d'or pour s'amuser en cuisine, en famille. C'est Barbatruc jusqu'à 16h. Got the whole world staring at you. You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. And you live for the lies. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I say is fake. It's giving me a headache. C'était Célassou, Hooray sur France Inter. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La cuisine, un jeu d'enfant. Avec les deux invités de Barbatruc, Estherelle Payani et Johanna Kaufmann, on se penche sur le versant ludique et rigolo de la cuisine pour les enfants et les ados. Alors je le disais, j'aimerais qu'on établisse ensemble quelques règles d'or pour s'amuser en cuisinant. Quelles règles mettez-vous tout en haut de la liste chacune, Johanna Kaufmann?
Alors l'évidence de l'évidence pour moi, c'est qu'il faut absolument sortir de l'injonction. Donc non, on n'est pas obligé de cuisiner maison, on n'est pas obligé de cuisiner longtemps maison, on n'est pas obligé de faire des choses tous les jours, on n'est obligé de rien en fait par rapport à la cuisine. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ça, ben, en fait qu'est-ce qui reste? La liberté, le plaisir, le jeu justement.
Se détendre avec ça.
Voilà, c'est
et
ça.
C'est mieux pour transmettre le goût de cuisiner aux enfants.
Exactement, parce qu'en fait c'est vraiment une histoire de transmission. Ce que je transmets, c'est ce que je suis. Et ce que je suis par rapport à la cuisine, bah c'est toujours bancal. Hein. On a tous un rapport. La cuisine, c'est chouette et chiant, c'est détendant et stressant, c'est libérateur ou au contraire contraignant. Et ben voilà, moi je cherche dans mes livres, dans mes recettes et dans ma cuisine à moi, en moi, à faire pencher la balance du bon côté. Et pour ça, bah on prend du temps, on fait de tout cœur plutôt qu'à contre-cœur. Et ça se passe vachement mieux.
J'aime beaucoup la manière dont vous présentez vos recettes dans votre livre « Retourner chez Jojo ». Des recettes gourmandes et coquettes qui se cuisinent en solo ou en collectif, à l'avance ou à l'arrache, avec mobile ou sans préméditation. Il y en a pour tous les goûts. Donc votre première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, Johanna Kaufmann. Et vous, Esther El Payani, quelle est la règle d'or numéro 1 pour rendre la cuisine avec des enfants ludique?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Johanna. Il y a vraiment deux façons de cuisiner, l'impromptu et la préparer, la décider. Donc, si on est en mode impromptu, laver une salade, c'est déjà cuisiner. Enfin, la question, c'est quoi cuisiner? C'est pas forcément c'est faire un soufflé, un truc hyper compliqué.
L'essoreuse de la salade,
voilà,
c'est hyper drôle.
L'essoreuse de la salade, couper un concombre. Moi, la première recette que j'ai faite toute seule, c'était du concombre avec de la pomme verte et du haddock coupé. Ça fait quoi? Avec une planche et un couteau, j'avais 5 ans et j'étais trop la reine du pétrole.
Ah, le couteau, je bondis sur l'occasion. Le couteau à 5 ans, oui, Esther El Payani?
Couteau à bourron, couteau à dessert. Okay. Et plus tôt on apprend un enfant à couper, moins il se coupe.
Gros sujet pour les parents, ça.
Ah, hein. Mais le couteau, c'est central, en fait. Le couteau, c'est la liberté du cuisinier. Et on peut tout faire avec un couteau. Alors, je peux citer une marque. Il y a Opinel qui a un coffret pour les enfants qui est super, pour justement des couteaux plus adaptés. Il y a plein de choses. Plus on va apprendre à un enfant à utiliser quelque chose qui coupe ou qui brûle, plus il va être précautionneux. Je ne vous dis pas de les laisser jouer avec des allumettes à 3 ans. Merci. Mais il y a effectivement être derrière pour apprendre à manipuler ce qui est dangereux, ça va vous donner beaucoup plus de choses. Donc l'acte culinaire, s'il est impromptu, c'est juste dire « viens m'aider, viens essorer la salade, un petit truc, il est avec vous et ça reste un plaisir ». Ou alors c'est « aujourd'hui, c'est séquence cookie ». D'accord, c'est un truc qu'on fait pour se faire plaisir, pour le goûter. Ça tombe bien, c'est bientôt l'heure. Mais alors dans ces cas-là, la règle d'or, c'est d'un petit peu anticiper pour que ça reste un plaisir. Donc le grand saladier, un saladier, c'est jamais assez grand pour un enfant.
Parce que sinon, on en met partout.
Voilà, donc vous voulez pas avoir à passer le balai après? Prenez un plus grand saladier. Et puis des petits ustensiles adaptés aux mains. Donc la clé dans ces cas-là, c'est quand on veut se faire une séance de cuisine qui reste un plaisir... Vous prenez 5 minutes avant pour anticiper. Donc, vous sortez à balance, vous pouvez faire des pesées s'ils sont petits pour pas avoir à en mettre partout. Vous préparez, comme ça, on se concentre sur le geste, le plaisir, la discussion.
Suivre ou pas la recette, on le disait, c'est une question importante. Il y a des enfants aussi qui aiment beaucoup ça, suivre à la lettre la recette et engueuler papa ou maman quand on dépasse de 5 grammes la quantité de farine dans la balance, Johanna Kaufmann.
De toute façon, je crois que c'est une histoire d'ouverture d'esprit, en fait. Pour moi, déjà, la cuisine, c'est un moyen d'expression et d'écriture, au même titre que la peinture, le dessin, enfin voilà. Pour moi, on cuisine avec des ustensiles, et on cuisine aussi avec d'autres éléments beaucoup plus imaginaires, on cuisine avec des sentiments, son cœur, son amour, son envie de s'amuser, justement, on cuisine avec son corps, ses mains, tout ça, et ça, c'est pas dans une recette, en fait, le corps, le cœur...
La créativité.
Et voilà. Donc, de toute façon, on va jamais suivre une recette à la lettre, parce qu'on va y mettre de soi, même si on a l'impression qu'on est très carré dans sa tête, on va y mettre aussi ce côté carré qu'on a. Donc c'est pour ça qu'il faut se détacher des recettes. Par contre, s'amuser, déjà, c'est commencer par connaître les règles du jeu pour pouvoir soit les suivre, soit s'en détacher. C'est comme ça qu'on s'amuse. Donc effectivement, en cuisine, et même moi si je suis autodidacte, j'ai commencé par apprendre. Moi aussi, dans les livres ou avec des copines. Moi, ce qui m'a fait basculer vers la cuisine, c'était de découvrir premières vacances entre copines. Pour aller pique-niquer sur la plage, moi, j'aurais rien su faire d'autre que d'acheter un sandwich ou un truc. Et j'ai une copine qui a dit « Allez, on va faire des boulettes ». Et en deux temps, trois mouvements, un truc tout léger, comme ça, elle savait faire des boulettes. Ça s'improvise pas comme ça, si on sait pas un tout petit peu comment s'y prendre, on sait pas le faire. Et elle a su le faire, c'était magique, on a embarqué les boulettes dans une cocotte ouverte qu'on a mangée sur le sable, comme ça. Ça me paraissait dingue et je me suis dit comment j'ai pu passer à côté de ça. Donc voilà, c'est effectivement, on apprend un petit peu des bases pour pouvoir mettre les pieds dedans.
Et après, on s'envole.
Exactement.
Les boulettes pour un pique-nique, je retiens cette très bonne idée. C'est à mon tour de vous donner ma règle d'or pour s'amuser en cuisine avec des enfants. Rigoler quand c'est raté. Voilà qui est important aussi. Ça évite de se mettre la pression, là encore. D'ailleurs, notre reporter Juliette Proutot a tendu son micro à des enfants dans les rues de Nantes et de Paris pour parler catastrophe culinaire.
Papa, des croque-monsieur.
Il y en avait qui étaient ratés.
Bah en fait, papa il l'a laissé longtemps et enfin ça brûlait et du coup bah c'était tout noir.
Un jour ma mère elle a voulu essayer un poulet au coca et c'était horrible.
Je me rappelle, ma sœur elle faisait des nouilles, elle les a cramées et c'était trop drôle. Du coup, elle l'a mis dans l'eau et ça buvait, ça faisait mal aux yeux aussi.
La dernière fois, on avait fait des brownies, mais on les a ratés.
Pourquoi ?
Bah, c'était de l'arnaque, on s'est fait arnaquer. Tout le coulis, tout le chocolat, et bah, c'était... En fait, c'est comme si le dessus, et bah, c'était bien, mais après le reste, c'était n'importe quoi.
Je pense qu'il y en a plein. Le truc que j'ai le plus raté dans ma vie, c'est les tortillas de patates. Voilà, c'est ça, vraiment à chaque fois.
Ça fonctionne pas.
Ouais.
Voilà, alors si le brownie c'était de l'arnaque, c'est sans doute que c'était de la pâte toute faite qui a été achetée. La prochaine fois, on l'invite, ce petit garçon, à essayer avec ses parents de faire un brownie maison. Je me dois évidemment de faire réagir mes invités à ce qu'on vient d'entendre, le poulet au coca. Estherelle Payani, il était écrit que ce serait raté, non?
Pourquoi faire ça? Oui, c'était tellement à la mode dans les années 90, hein. C'était vintage en fait. Mais c'est vrai qu'on reste marqué par toutes les recettes qu'on rate. Hein.
C'est une aventure, non, de rater une recette.
Moi, mon obsession à 9 ans, c'était la pâte à choux. Ah. Et alors, j'avais que le bouquin de cuisine Maïzena, vous savez, qui était offert avec les bouquins. Et alors, la première fois, ça a été une crêpe géante. La fois d'après, des crottes. Et on avait un four où il y avait bas, moyen, haut. Je me dis, avec le temps, j'ai réussi à apprendre à cuisiner avec ça. Pas de thermostat ni rien. Et puis, un vieux four à gaz où il y avait pas de vitre. Et la pâte à choux, faut pas l'ouvrir. Et je me souviens de la satisfaction, mais des années après, quand j'ai réussi à faire des choux, maintenant j'adore faire ça, c'est une grande passion dans la vie de faire des choux, c'est très détendant. Je me disais, mais jamais j'y arriverai, quoi. Mais alors, mes frères et sœurs étaient super parce qu'ils mangeaient tout ce que je sortais tellement ils avaient faim. Pourtant, c'était pas bon du tout.
Ce sont vos ratages qui vous ont donné l'amour de la cuisine, vous diriez?
Mais quand on est perfectionniste, rater des choses et se rendre compte que c'est pas grave, c'est une super école. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Même encore régulièrement, je rate des plats. Ça me fait toujours beaucoup de bien de rater un plat. Parce que ça fait beaucoup rire mes enfants. Ils me disent, bah, t'écris des bouquins et tu te rates quand même. Et parce que je peux leur dire, c'est pas si grave. Maintenant, j'ai appris un truc, qu'il faut pas cuire quelque chose sur le mode pyrolyse, par exemple. Ça ne
ah oui, non, la pyrolyse, c'est pour nettoyer le four.
Voilà, tout à fait. Vous avez un nouveau four, faites pas attention, ce genre d'erreur qu'on peut faire. Que les parents ne sont pas infaillibles, ça fait du bien aux enfants aussi.
Ouais, les enfants veulent savoir ça.
Bah, nous aussi.
La meilleure manière de digérer un gros raté en cuisine, c'est de savoir en rire, Johanna Kaufmann.
Moi, un de mes souvenirs d'enfance vraiment hyper prégnant par rapport à la découverte du fait que la cuisine, ça pouvait être chouette et jouable. Et c'était ma mère et son chéri qui nous avaient organisé un challenge pendant des vacances. Et on était en équipe avec les cousins. Il y avait différentes épreuves d'aventure, des trucs sportifs, tout ça. Et l'épreuve de cuisine tournait autour des tartines. Oh. Et il y avait deux parties de l'épreuve. Première partie, la tartine la plus délicieuse. Et deuxième partie, la tartine la plus dégueu. Et je fais diriger la tartine dégueu sur le même plan, au placé et considéré, valorisé que la tartine délicieuse. Je trouvais ça génial, ça a décloisonné comme ça.
Mais alors, elle était comestible tout de même, la tartine dégueu.
Il fallait qu'elle soit faite à partir d'ingrédients comestibles, hein, quand même pas folle.
Idée géniale, ce jeu de la tartine dégueu.
Et c'était
vous vous souvenez ce qu'il y avait comme ingrédients?
Non, je me souviens pas. Je me souviens du plaisir et des fous rires qu'on a eu à faire ce truc. C'était génial.
Que c'était pas moutarde, cacao et puis saucisse de Strasbourg.
Oh,
c'est
du
tomate au Bobby Bulga, là, ça marchait bien.
La tartine, c'est une feuille blanche, finalement, Johanna Kaufmann.
Exactement.
On en fait ce qu'on veut. Ouais. Il y a beaucoup de tartines dans votre pratique de la cuisine.
Ouais. On n'a pas besoin de faire, de tout cuisiner. Donc, effectivement, on peut partir de quelque chose qui est quand même plus appétissant et consistant qu'une feuille blanche, qui est une tartine. Et puis, à partir de là, ben ouais, on peut partir dans le sucré, dans le salé, dans un mélange des deux, dans le peaufiné, dans le tout simple. Voilà, on va jouer sur les couleurs, sur les textures. C'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, hyper ludique, abordable et puis universel.
Voilà, c'est un jeu qu'on conseille évidemment à tous les parents qui nous écoutent. Hein. La meilleure tartine et la tartine la plus dégueu. On poursuit ces échanges dans un instant sur France Inter. On sera en ligne dans un court instant avec le pâtissier Philippe Uraca. Des gâteaux et que ça saute.
Barbatrix de Dorothée Barba sur France Inter. Sugar. Sugar, sugar.
of loving you.
Nous sommes en cuisine cette semaine dans Barbatruc avec deux gastronomes, deux autrices de livres de recettes qui savent comment transmettre aux enfants et aux ados le goût des plats et des desserts faits maison. Faire de la cuisine un jeu, c'est notre ambition. S'il y a un geste que les enfants, en tout cas je parle de mon expérience, aiment bien réaliser, c'est celui d'écosser les petits pois, Esther El-Payani. Et vous, avec l'écosse de petits pois, vous faites de la soupe.
Oui, alors c'est pas trop la saison, donc vous allez garder l'idée pour le printemps. Donc vous les lavez avant de les écosser, comme ça c'est fait. Et en effet, il suffit de les passer à la casserole, comme vous faites d'habitude, avec un petit bouillon de légumes. Après, de les mixer et de les filtrer, sinon c'est plein de fils. Et les fils de petits pois, c'est vraiment pas bon. Encore pire dans les appareils dentaires. Et vous avez une soupe veloutée toute simple et bonne.
Mais ça a été retrouvé dans la cuisine des beaux restes chez Flammarion. C'est votre livre de cuisine de restes. Mais alors, vous lavez l'écosse même quand vous ne les cuisinez pas, je crois.
Mais parce que je sais qu'après, je vais toujours en faire quelque chose.
Ah oui, voilà,
parce que
vous faites toujours quelque chose avec vos cosses.
En fait, c'est ça. C'est si vous prenez l'habitude de manger vos légumes en entier, typiquement la tige du brocoli, si vous lavez aussi la tige que vous allez peler, qu'après vous pouvez utiliser râpée ou dans une soupe ou sauter avec des pâtes, ça marche très très bien aussi.
Il y a un million de bonnes raisons de donner aux enfants le goût de la cuisine, pour faire soi-même le goûter qu'on emmène à l'école par exemple, et donc réduire ses déchets, parce que on le sait, les goûters industriels sont souvent suremballés, pour gagner en autonomie aussi, pour gagner en estime de soi, parce que la fierté d'une recette réussie, c'est tout de même quelque chose. Cuisiner, c'est aussi souvent faire des maths, mine de rien, peser, mesurer. Mais toutes ces raisons sont-elles celles qui vont convaincre l'enfant de s'y mettre, à votre avis, Esther El-Payani ?
Ça dépend de la personnalité de chaque enfant. Moi, j'en ai deux. Les deux ne réagissent pas du tout pareil aux mêmes recettes, aux mêmes envies. Ça répond à tellement de besoins différents, la cuisine, comme disait Johanna, que vous allez pouvoir... Le mathématicien adore faire les règles de trois, en effet, pour faire plus de gâteaux au chocolat ou plus de cookies pour la semaine. Et l'artiste, ce qui va l'intéresser beaucoup plus, c'est quelle forme il va pouvoir donner à son cookie, s'il peut rajouter des choses après. C'est vrai que l'exemple que vous donnez de préparer les goûters de la semaine, je sais qu'autour de moi, c'est quelque chose qui marche très très bien. Mmh. En plus, ça parfume la maison le dimanche. Une maison qui sent le gâteau, c'est vraiment quelque chose...
Mais alors, si on fait un gâteau le dimanche, ça peut tenir pour tous les goûters de la semaine, ça va être un peu vieillot pour le vendredi. Hein.
Alors, il y a deux petites choses. Déjà, il ne faut pas chercher la perfection à vouloir tout faire tout le temps, toutes les semaines, par pitié. Hein. Les cookies, par exemple, moi j'en fais, c'est quelque chose qu'ils adorent. Ils aiment bien le faire parce qu'il y a le geste de touiller et ratatouiller. Ça, il y a à la fois, il y a deux gestes que les enfants adorent en cuisine, c'est ce que j'appelle le ratatouillage. Donc, c'est le mélange, la patouille, le mix et le côté pâte à modeler. Et donc, l'avantage du cookie, c'est qu'il réunit les deux. Vous tatouillez la pâte et après, vous pouvez la modeler en la boulant régulièrement.
Alors, je crois que vous déconseillez les muffins aux enfants qui aiment beaucoup mélanger, justement.
Oui, tout à fait. Parce que, par exemple, c'est une pâte, si vous la travaillez trop, elle va devenir dure et élastique. Ah. Et vous allez avoir des muffins super compacts. Ils vont tenir jusqu'au vendredi sans problème, mais personne ne les touchera. Ou alors, vous pouvez servir comme balle, quoi.
Comme balle de baseball même, tellement
ouais,
c'est dur.
Exactement.
Justement, on va passer à la pâtisserie. On est en ligne à présent avec Philippe Uraca. Bonjour à vous.
Bonjour.
Chef pâtissier, vous êtes MOF, meilleur ouvrier de France, et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Pâtisserie, leçons en pas à pas. C'est aux éditions du Chêne, dans la collection Petit MOF. Est-ce que vous avez testé avec des enfants les recettes que vous proposez?
Alors, j'ai testé bien sûr avec des enfants. Ça marche bien. Il faut aller par étapes. Hein. On ne va pas commencer par faire une charlotte aux fraises. Je pense qu'il faut commencer par le début. C'est des choses simples. Vous savez, on en parlait, c'est le cookie qui, lui, intéresse toujours les enfants. C'est facile à réaliser, c'est facile à mélanger. On y met les mains. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Après, dès qu'il faut commencer à monter des œufs, à faire des choses comme ça, ça devient un petit peu plus complexe. Donc, on le gardera pour un deuxième temps.
Alors, je partage avec les auditeurs et auditrices mes propres ratages, mais attention à ne pas trop mettre proches les cookies les uns des autres sur la plaque de cuisson. Mm-hmm. Sinon, ça fait un très grand cookie, Philippe Uraca.
Ça existe, le cookie XXL.
À la rubrique « Les conseils du pâtissier », dans votre livre, vous écrivez ceci. « Range et fais la vaisselle quand tu as fini de cuisiner ». Alors ça, c'est un grand débat. Est-ce que vous estimez que celui qui cuisine doit nettoyer? C'est peut-être un peu un repoussoir hein, pour les enfants.
Alors, c'est pas un repoussoir réellement, parce que en cuisine, on a plutôt tendance à mettre partout. En pâtisserie, il faut beaucoup d'ustensiles. Donc, si on en met partout, on évite de déborder, on n'a plus de place. Donc, je crois que le fait de leur apprendre à ranger, vous savez, c'est comme un cartable d'école. Quand on a fini un devoir, on plie le cahier qu'on vient de réaliser, on le range dans un cartable, et bien la pâtisserie, c'est pareil.
Bon, on a le droit de lécher la cuillère, quand même, à la fin.
Alors, je pense qu'on n'a pas le droit, c'est obligatoire.
Ah. Vous n'êtes pas du genre à prendre des libertés avec la recette, vous, hein, j'ai l'impression. Vous écrivez dans l'introduction que la pâtisserie est une affaire de précision.
Alors, la pâtisserie est une affaire de précision parce que, malheureusement, on se rend compte que c'est loupé quand on le sort du four.
Ouais.
Donc, c'est pas réversible, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il faut être précis. Il faut savoir calculer. Donc, ça aide aussi par rapport au niveau scolaire. Mmh. Je dirais que le fait d'additionner une recette ou de la multiplier par deux, par trois, ça oblige à faire du calcul mental. Mais ce qui est important, hyper important, c'est de respecter les ordres de mélange. On travaille toujours des produits plus lourds à la fin qui vont, eux, retomber au fond de la bassine. Donc, voilà, c'est tout simplement pour ça. Et si on les travaille au départ, on aura du mal à les incorporer.
Voilà, ça c'est un peu contre-intuitif, disons-le, parce qu'on s'imagine toujours que mélanger trois trucs, c'est mélanger trois trucs. Non, il faut commencer par le 1, puis le 2, puis le 3.
Sinon, c'est de la maçonnerie. Vous savez, quand on mélange du sable avec du ciment, si on met l'eau au départ ou après, mais on a plein de mêmes résultats. En pâtisserie, c'est pareil.
Vous avez participé, Philippe Uraca, au jury d'une émission de France 2 qui s'appelait « Qui sera le meilleur pâtissier ?» Est-ce que vous diriez que la vague des émissions culinaires, le meilleur pâtissier notamment, ont conduit les enfants et les ados vers la cuisine, l'ont rendu plus ludique notamment?
Ah mais c'est certain, vous savez, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un métier qui est très médiatique et qui donne envie aux gens de refaire à la maison parce qu'ils ont vu à la télé, ça a l'air tellement facile. Ça donne envie, c'est gourmand. Ben, je crois que, bien sûr, ces émissions aident énormément.
Et puis à la télé, c'est de la compète. Ça, c'est très ludique.
Alors, en plus, il y a la compète. Et je trouve que la compète, dans une vie, c'est hyper important. Parce que si on fait du sport, si on fait quoi que ce soit, il y a toujours un petit esprit de compète qui va un peu créer cette stimulation qui vous permet de toujours avancer, toujours aller de l'avant, quoi.
Merci beaucoup, Philippe Uraca. Pâtisserie, leçon en pas à pas aux éditions du Chêne. C'est à retrouver dans la collection Petit MOF. Bonne journée à vous et à bientôt sur France Inter.
À très bientôt et merci à vous.
Estherelle Payani, vous n'êtes pas d'accord sur le succès de la compétition chez les enfants et les ados?
Ben, j'aime pas du tout l'idée que se nourrir, c'est une compétition les uns envers les autres.
À vos marques près, pâtissez.
Pas du tout, mais pitié, quoi. C'est, si on pouvait sortir le champ culinaire du champ de la compétition pour justement lui redonner sa vraie valeur. On se nourrit avec des choses qui nous font du bien, on se nourrit avec des sentiments, avec des personnes qui sont importantes pour nous. Est-ce que ça a forcément besoin d'être des Olympiades, de qui fera le plus beau muffin? Mon muffin, même raté, il peut être délicieux. Moi, les meilleurs plats que j'ai mangés dans ma vie, c'était pas forcément des plats de grands restaurants. Ça a été parfois des plats un peu banco, mais fait par quelqu'un que j'aimais, qui me touchait plus. Donc, juste mettre ça dans le domaine de la compétition, je trouve ça un peu dommage.
Bon, vous n'êtes pas une compétitrice. J'ai une autre idée à vous suggérer à toutes les deux, Johanna Kaufmann, Estherelle Payani, pour faire de la cuisine avec des enfants un jeu, une expérience ludique. Donner des noms à ces plats, donner des noms à ces recettes, ça semble important. Quand mon fils a voulu goûter la banane flambée, mais qu'il ne voulait surtout pas que j'y mette de l'alcool, j'ai cuisiné donc une banane revenue dans du beurre et du sucre, et c'est devenu la barbanane. Ah. Et ben ça a beaucoup de succès. Ça change tout de donner des noms à ces recettes.
Complètement. Ouais, bah moi, il n'y a pas longtemps, je voulais faire un taboulé, puis j'avais pas de quoi faire un taboulé, mais j'avais des petites pâtes toutes rondes, et donc j'ai fait un patoulé. Et j'avais déjà fait des taboulettes aussi, qui étaient donc des boulettes de taboulé. Et effectivement, mais ça, quand vous en faites ou vous en parlez à des enfants, ça les fait délirer. Et des adultes, vous retrouvez aussi cette réaction d'enfant face au plat, et y a un ça marche super bien.
Il y a un bananaramium dans votre livre.
Mais tout à fait. Mais moi, je mets alors sous, c'est un petit livre, alors il n'y a pas beaucoup de place pour
retourner
mettre 15
chez Jojo,
tonnes
je
de texte.
Oui.
Voilà, retourner chez Jojo, ça marche pareil aussi dans Déjeuner chez Jojo. En fait, je mets des petites légendes sous les recettes. Et,
Frugal régal, voilà. Délice en dérive, l'aventure c'est la mixture, celui-là c'est mon préféré. Voilà. Estherelle Payani, ça change tout de donner un nom à une recette qu'on a inventée?
Oui, parce qu'on se l'approprie vraiment et puis on ne mange pas que des aliments en fait. Il y a un côté appropriation totale de ce que c'est. Après, c'est des catégories très génériques. Hein. Quand on dit j'aime faire des gnocchis, des cookies, des tortillas, on a un référentiel commun quand on arrive à avoir... Mais les cookies de Jojo ne sont pas les mêmes que mes cookies et que les vôtres, certainement, Dorothée.
Et les patoulettes. Non, pas patoulettes.
Comment le patoulé et taboulette.
Voilà, ça c'est inédit, c'est singulier.
Mais même, tu pourrais faire des boulettes sur un lit de taboulé. Et là, ça serait des tataboulettes.
La créativité n'a pas de limite. Et les adolescents dans tout ça. Je vous recommande une série de vidéos qui est proposée par Manger Bouger, initiative de santé publique portée par Santé Publique France, l'organisme qui pilote donc ce site mangerbouger.fr. Ils ont fait appel à des personnalités pour proposer des recettes, des personnalités populaires auprès des plus jeunes qui invitent leur communauté à mieux manger dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle En deux-deux. Voici par exemple l'humoriste et comédien Hakim Djellimi.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir, je suis vraiment très content d'être ici, bienvenue dans En deux-deux. Aujourd'hui, je vais faire une recette que j'avais jamais moi-même personnellement confectionnée. Ça s'appelle le banh mi au poulet. Pour faire un banh mi au poulet, il faut du poulet. On a du poulet. Le poulet, on le respecte, on le masse légèrement. Si je peux me permettre. Dis-moi, il faut le respecter le poulet, tu comprends
ça, ce que bah, attends, je connais.
Ah ouais. Là, le poulet maintenant, là, il est tendre, il se sent en confiance.
Ah ouais?
Tu le retournes et là, tu coupes. T'as capté?
Tu fais ça bien.
Je fais ça bien, frérot. Ok, bah tu vois, vous avez compris le principe, mesdames, messieurs.
En petite lamelle.
Faut couper ça en petite lamelle, tu vois.
Voilà, c'est un peu la cuisine pour les nuls. Des vidéos très drôles qui, l'air de rien, montrent les gestes. En deux-deux, ça s'appelle. C'est à retrouver sur le site mangerbouger.fr. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler qu'on peut faire vite et bon, Estherelle Payani.
Ah oui, puis surtout avec les ados qui sont toujours affamés. Donc ça, s'il y a bien un public, quand on dit « Hey, tu veux manger ? Bien, viens le faire avec moi », ça marche à tous les coups. Mais il y a un truc qui marche bien avec les ados, comme ils sont tous très fans de manga quand même, ben il y a plein de mangas culinaires. Donc c'est une super source d'inspiration. Quand ils sont plus petits, il y a le ramen de Ponyo. Bon,
Ponyo sur la falaise.
Voilà, quand ils mangent son ramen avec le jambon, ben, quand ils avaient 5 ans, ben, viens préparer ton ramen et tout. C'est mieux justement si on fait un bouillon de poule maison et puis qu'on choisit des bonnes nouilles. Après, si c'est un paquet de ramen instantané, c'est pas grave, puisque ce qui va compter, c'est mettre de la ciboulette, rajouter la garniture qu'on veut. Quelque chose qui est beaucoup représenté dans les mangas aussi, c'est le curry japonais. Vous savez, donc il y a des, on prépare un ragoût de légumes. Donc il y a des carottes, il y a des pommes de terre et puis un peu tous les légumes que vous voulez dans une sauce épaisse avec une poudre de curry et on la sert avec du riz et par dessus on peut faire une escalope panée. Donc comme ça, en plus, le simple fait de paner quelque chose, c'est quelque chose qui marche super bien avec les enfants puisqu'il faut passer dans la farine, passer dans l'œuf et puis passer dans la chapelure. Le côté trois étapes, tac tac, ça marche bien aussi.
Donc là aussi, on prépare en amont chaque bac et puis ensuite on y va pour la manipulation. C'est de la patouille là encore.
Là encore, mais c'est de la patouille version ado en disant regarde, tu vas avoir le plat que tu as eu dans Food Wars. Ça aussi, ça marche trop bien.
Barbatruc sur France Inter avec Dorothée Barba.
Barbatruc est au fourneau cette semaine, c'est presque l'heure du goûter avec Johanna Kaufmann et Estherelle Payani. Mieux vaut toujours cuisiner ce que l'on aime manger, mais il est important d'insister sur un point auprès des enfants. Les goûts ne sont pas gravés dans le marbre, ils évoluent au fil du temps. Notre reporter Juliette Proutot a demandé aux enfants qu'elle a rencontrés si leur goût avait changé depuis qu'ils étaient petits.
Barbatruc, dit Dorothée Barba sur France.
Moi, j'aimais pas les frites et maintenant j'aime les frites, mais maintenant j'aime pas les frites.
Avant j'aimais le fromage et maintenant non.
Ah, non, ça va dans l'autre sens.
Ouais.
Non, mais en fait, lui, il aime jamais le fromage.
La pizza de chez Picard, là, au début, j'aimais beaucoup, mais maintenant j'aime pas.
Et c'est quoi les plats que vos parents mangent et que vous aimez pas trop?
Alors,
épinards.
S'il faut qu'on fasse la liste, on est encore là jusqu'à demain.
Genre quoi?
Les fromages, les brocolis. Attends, il y en a trop.
Bah, en fait, tous les légumes.
Tous les légumes. Non, pas forcément, mais il y a...
Des chips aux légumes aussi, c'est pas bon.
Légumes, les tomates farcies.
Ah ouais, c'est trop bon, les tomates farcies.
Les cacahuètes, c'est bien, mais cuit à la poêle, c'est pas bon.
Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup de choses et là, j'aime moins de choses. Bah, j'aime pas trop tout ce qui est poisson, crabe, tous les moules, des trucs. J'aime pas trop ce qui vient de la mer. Okay. Et je suis pas très viande. Alors que quand j'étais petite, j'adorais ça.
J'aimais pas du tout les épinards, mais maintenant j'aime ça.
Moi, avant, j'aimais pas trop la poire et maintenant ça va, j'aime bien.
Ouais. Moi aussi, ça a changé. La salade, toujours pas. Mais l'aubergine, avant, j'aimais bien. Pas et maintenant, j'aime bien.
Et vous pensez qu'il y a des aliments d'enfants et qu'il y a des aliments d'adultes un peu?
Oui, il y a des aliments plutôt pour les enfants. Par exemple, la purée, c'est plutôt pour les enfants. Mais les trucs qu'on trouve dans les restaurants, par exemple, je sais pas comment expliquer, par exemple, les tout petits trucs nappés avec plein de sauce, tout ça, c'est plutôt pour les adultes.
Des fois, on a des patates avec des pommes de terre dans une sauce avec du poulet. Et c'est papa qui le fait.
Patates et pommes de terre, sauce au poulet. Voilà, je vous soumets ça, brut de décoffrage, Johanna Kaufmann.
Mais c'est ce côté, justement, ça me rappelle une discussion qu'on avait avec une copine qui me disait « Mais j'en peux plus parce que j'essaye sans arrêt de m'adapter au goût de mes enfants. » Et mon ado, justement, vient de me sortir « Mais maman, c'est pas parce que j'aimais que j'aime encore. Moi aussi, je change. » Et oui, mais justement, faut rebondir là-dessus. Et faut se dire que c'est une question qui reste ouverte. Et que c'est pas parce qu'elle dit que là, maintenant, à la seconde, elle aime pas, dans ce contexte-là où ça se passe comme ça, que c'est figé. Et pour soi aussi, faut pas prendre ça comme un revers, une grosse claque. C'est des cycles, ça change.
C'est toujours meilleur quand on l'a fait soi-même. Et ça, c'est le meilleur argument pour mettre les enfants au fourneau, Estherelle Payani. Non, elle fait la moue.
Bah oui, c'est pas mal si je m'assois les pieds sous la table et c'est eux qui me servent à manger. Vous m'ouvrez des perspectives. Franchement, ça serait pas mal de frotter, non? Que ça passe un peu plus en cuisine.
C'est une question intéressante, blague. Est-ce qu'il y a des plats pour les enfants et des plats pour les adultes?
Non, parce qu'il y a des adultes qui ont des goûts d'enfants, il y a des enfants qui ont des goûts d'adultes. Donc, puis c'est quelque chose de mouvant pour nous aussi. Il y a des plats que vous adoriez il y a 10 ans, je vous les resserre aujourd'hui, vous allez pas forcément les apprécier. Le goût est quelque chose de changeant, une histoire d'humeur, une histoire de fatigue, une histoire d'endroit où on est. On n'aime pas les mêmes choses à Lille et à Marseille, selon le climat où on est. J'aime bien que ce soit quelque chose d'aussi vivant.
On a entendu, ça revient beaucoup quand même dans les paroles d'enfants à l'instant. Les légumes, non pas trop la cote.
Bah, il y en a une qui a dit qu'elle aimait bien les épinards et puis l'autre les brocolis quand même. Moi, j'ai entendu ceux qui
le verre est à moitié plein toujours avec vous.
Puisqu'on peut manger avec les doigts. Les haricots verts, c'est des frites vertes.
Manger avec les doigts, excellente idée. Johanna Kaufmann, soirée sauce qui peut, c'est votre idée pour les enfants.
Soirée sauce qui peut. Bah, déjà, faut faire des soirées en fait, faut pas juste faire des repas, faut faire des événements, des moments joyeux, festifs et pas des moments contraints, cadrés. D'ailleurs, on peut sortir de la table Moi, je vais l'avouer, je mange beaucoup dans mon lit.
Et les miettes.
Et je trouve que c'est un grand plaisir de le faire. Mais voilà, faut décloisonner. Et donc on disait les légumes, effectivement, moi j'avoue que même encore aujourd'hui, cuit à la vapeur, sans aucune épice ou quoi que ce soit, coupé en super gros et tout, je trouve ça pas très intéressant. Et donc effectivement, quand on peut les prendre avec les doigts et que donc si on fait cette fameuse soirée sauce qui peut, eh ben on a choisi ensemble des couleurs de sauce, des textures de sauce dans lesquelles on va s'en donner à cœur joie pour faire trempette. Eh ben, ça devient tout de suite beaucoup plus sympa.
Un exemple de sauce improvisée?
Un exemple de sauce, on peut même encore mettre des légumes dans les légumes si l'enfant...
Légumes au carré.
voilà, des légumes au carré, des mousses de légumes. Vous savez les hummus là qui sont faits avec des pois chiches, et ben on peut les faire avec des légumes. Le pesto, on peut le faire avec des légumes. On peut aussi faire des sauces crème avec des colorants naturels qui vont les rendre beaucoup plus rigolotes. Enfin vraiment, c'est quelque chose de très ouvert et de très ludique, les sauces, et pas forcément de gras. Hein. On n'est pas du tout obligé d'être dans la mayo absolument. Donc on peut avoir quelque chose de sain et de rigolo.
Jusqu'où faut-il aller pour faire aimer les légumes aux enfants ?
Tu sais, j'ai vu une petite pizzeria dans le coin. Tu veux pas qu'on l'essaie ?
Mais oui, j'adore les pizzas.
Pizza, pizza ! Qu'est-ce que c'est ça ? Non mais c'est quoi ce truc ?
Des brocolis dans de la pizza.
Ok, je démissionne.
Quoi ? Non mais attends, c'est sérieux là ? T'appelles ça de la pizza toi ? Tu sais d'où on vient ?
Voilà, ce gars qui s'énerve, il est dans la tête d'une petite fille. C'est un extrait du dessin animé Pixar Vice Versa, Estherelle Payani. La pizza au brocoli, c'est devenu votre plat emblématique.
Bah, c'est pas si mauvais, mais alors avec une base crème, hein, pas avec une base tomate quand même. Et puis, si votre enfant préfère des haricots verts, et ben pourquoi pas. Bon, peut-être qu'on peut appeler ça
pizza...
crème cuche.
Pizza ou haricots verts.
Après tout, c'est juste qu'une version chaude de la tartine. Vous avez une base de pâte à pain. Et... Mais regardez, la tortilla, c'est le même principe. Alors pas la tortilla de pommes de terre, mais la tortilla mexicaine ou les sushis. Tout ce qui fait que vous avez une base assez neutre avec un féculent, que par-dessus, vous pouvez garnir en adaptant à vos goûts. Et chacun, avec une base commune, peut se faire son propre plat. Mmh. Ça, ça marche énormément avec les enfants pour faire des soirées à thème, comme vous disiez, Johanna, et où on peut vraiment, chacun, en mangeant ensemble, avoir sa petite variation personnelle, quoi.
Très bien. Chacun sa petite recette.
Et c'est sa petite recette
autour
personnelle,
de la même table,
finalement, qu'on se fait en ayant préparé les bases ensemble. Mais on a quand même quelque chose qui est complètement adapté à notre goût.
Un peu
goût.
Comme une soirée crêpe, quoi.
Bah, la crêpe, c'est rond et c'est une base de céréales. Exactement, vous avez tout compris.
Mais alors, pour revenir à la pizza à brocoli, est-ce que vous faites cuire le brocoli à la vapeur avant ?
Alors, moi, j'aime bien le faire cuire à la poêle, globalement, D'accord. pour lui donner un petit côté un peu plus grillé au départ et un tout petit peu un fond d'eau pour que ça finisse de cuire à la vapeur. Parce que le brocoli vapeur, c'est hyper difficile à faire parce que souvent, on le surcuit. Ouais. Donc, dès qu'il est cuit dans votre cuit vapeur, vous l'enlevez du cuit vapeur. L'erreur qu'on fait, c'est de vouloir le garder au chaud dans le cuit vapeur et c'est là que de vert, il passe à tout gris, tout moche et que je m'énerve comme le petit bonhomme vert dans la tête, si c'est trop. Il faut qu'il ait la même couleur que le petit bonhomme vert de Vice Versa,
voilà,
pour être
aussi,
bon.
Aussi furax.
Exact.
Mais alors, vous me jurez, les yeux dans les yeux, que les enfants aiment ça, la pizza au brocoli.
Mais oui, mais l'histoire du brocoli, je crois que les enfants parfois préfèrent ça aux parents, hein, parce que les brocolis, ça reste assez partagé. Vous aimez ça, Dorothée ?
Moi, j'aime ça, mais j'ai jamais réussi à en faire manger à mes enfants.
Bon, on va échanger nos enfants. Hein.
On l'a même pas dit tellement c'est évident, Estherelle Payani, mais la cuisine, c'est pour les petites filles et pour les petits garçons, pour les adolescentes et pour les adolescents. Est-ce que vous avez l'impression que les clichés ont la peau dure en la matière ?
Oui, tout à fait. Spontanément, on va mettre plus facilement les petites filles en cuisine, alors que c'est justement si on veut que les choses évoluent et que plus tard et même tout de suite, les temps de passer aux tâches ménagères soient mieux répartis, ça commence dès le berceau. Donc en effet, faire des cookies, il n'y a pas besoin de sexe pour ça. Sinon, c'est pas pour les enfants.
Comment rebondir ? Johanna Kaufmann, votre recette iconique à vous, c'est un truc que j'ai peur de mal prononcer.
Oui, je vous laisse le faire.
Lancez-vous.
Les spätzle.
Les spätzle. C'est alsacien. Ce sont des pâtes.
Et voilà. Et il y a vraiment que le nom qui est compliqué, hein, parce que d'ailleurs, spätzle, ça veut dire petit zizi.
Oui,
et donc en fait,
transition toute trouvée, je savais même pas. Voilà.
Donc voilà, c'est dit. Et les spätzle, en fait, c'est pour moi la pâte la plus simple à préparer. C'est encore plus simple qu'une pâte à crêpes. Ça se prépare à la cuillère en bois. On prend son saladier, on met des œufs entiers. On rajoute du lait ou de l'eau ou, comme moi, de la bière d'Alsace. On rajoute de la farine, du sel. Et puis, si on a envie de colorer, ben on met du curcuma, on met du charbon actif si on veut que ce soit noir. Enfin, voilà, on s'amuse si on veut. On touille pas longtemps. C'est vraiment vite prêt. Et puis ensuite, il faut simplement un petit ustensoir,
ouais,
voilà,
un ustensile
avec réservoir. C'est pour ça que j'ai fait la fusion. Et donc, en fait, on a un petit réservoir qui glisse par-dessus une râpe qu'on pose sur sa casserole. On met une louche de pâte.
Ah, donc une râpe à réservoir.
Exactement, une râpe à réservoir. On glisse une louche de pâte dans le réservoir. On fait coulisser ça par-dessus l'eau bouillante dans son énorme casserole. Et puis ensuite, on regarde ces pâtes qui, en glissant dans l'eau, cuisent quasi instantanément, parce que c'est vraiment des tout petits morceaux de pâte. C'est là qu'il faut absolument oublier que c'est des tout petits, sinon ça crée une image inoubliable. Et en fait, on va prendre une fine passoire qu'on va utiliser vraiment comme une épuisette, et puis on part à la pêche à ces morceaux de pâte qu'on recueille dans un grand saladier. On les mange chaudes ou froides, on les accompagne d'une avalanche de légumes ou de crème ou d'herbes ou de ce qu'on veut. Et c'est vraiment hyper rapidement prêt et hyper rigolo à faire.
Et très ludique pour le coup.
Voilà.
La recette des petits zizi alsaciens de Johanna Kaufmann sera sur le site évidemment de Barbatruc, franceinter.fr. Je voudrais qu'on termine avec quelques conseils de livres de cuisine pour enfants, Esther Elpayani. La Bible d'abord. La cuisine est un jeu d'enfant de Michel Oliver. Première parution de ce bouquin, 1963. La préface est signée Jean Cocteau, s'il vous plaît, avec des dessins en lieu et place des photos de plats. C'est un livre qui n'a pas pris une ride.
Bah, du tout, c'était le livre que je rêvais d'avoir quand j'étais petite fille et que je finis par m'acheter à l'âge adulte. Ce qui était génial, c'est qu'il y a aussi une tasse mesureuse. C'est prévu, justement, c'était l'époque où les gens n'avaient pas de balance ou de verre-mesureur. Donc, il y a une tasse qu'on peut construire comme un pot de yaourt. Et donc, c'est une mesure de ci, une mesure de là. C'est des choses pas très précises. Ça montre que, justement, on arrive à cuisiner en étant un peu flou. Il y a une recette que je fais encore. Il y a une recette de cake au vin blanc dedans et aux olives, ben elle n'a pas pris une ride, c'est toujours celle que je fais finalement.
La cuisine est un jeu d'enfant, Michel Oliver. Autre bouquin, 100% excellent, les 120 meilleures recettes d'Astrapi, édition Bayard Jeunesse. J'en profite pour signaler que les recettes publiées dans Astrapi, magazine pour les 7-11 ans, sont généralement très chouettes. Et ce bouquin en particulier, pour vous, c'est une bible.
Ah, c'est un super cadeau, déjà parce qu'il a un format chevalet, donc il tient très bien dans une cuisine.
Ah, oui.
Les pages sont plastifiées, il est avec une spirale, et il y a une galette au fromage dedans, pareil que je fais encore, qui est entre la gougère et la pâte à pizza, où c'est beaucoup plus simple à faire, c'est tout aéré, c'est délicieux, et c'est un très bon cadeau. Souvent je l'offre en cadeau de naissance en fait.
Ah,
en disant, oui, parce qu'en fait
on anticipe
pas
un peu.
Oui, et puis les parents se disent j'ai pas le temps de cuisiner, et en même temps les recettes sont tellement simples que les parents commencent à les faire eux-mêmes, avant de beaucoup plus tard les faire avec leurs enfants.
Et puis dans votre podium, Esther Elpayani, on trouve aussi les recettes des tout petits signées Eventia Saint-Derens. La gastronomie commence au berceau.
Alors, c'est vraiment un livre qui est très cher à mon cœur, parce que Eventia Saint-Derens, c'était la femme du cuisinier, du chef Saint-Derens, qui est un des tout premiers livres pour les tout petits. Ça commence à 3 ans. Et c'est sur les purées, les compotes. Mmh. Mais il y a des accords de saveurs que moi, je fais encore. Genre, il y a un potage de haricots verts au concombre. C'est un mélange qui est juste trop bon. Des mélanges de compotes super intéressants. Des barres à la tomate et aux herbes. Purée de carottes, maïs et basilic. Mmh. Ça, vous pouvez le faire vous. C'est dans la délicatesse et des accords de goût. Avec une simplicité, il n'y a pas de photo, c'est un tout petit livre, mais c'est vraiment une petite bible pour ceux qui aiment vraiment le goût des aliments. Parce que là, on retourne vraiment à la source.
Voilà, toutes les références, évidemment, seront sur le site de l'émission. Il n'y a pas que les livres de recettes dans la vie. Voici les conseils tant attendus de Denis Chessoux parmi les sorties d'albums jeunesse. Au programme cette semaine, la protection animale et le secret des parents. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz sur France Inter. La tulipe, mon petit loup.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. On va commencer donc par le secret. Oui, le secret des parents de Nicolas Mathieu et Pierre-Henri Gaumont chez Actes Sud Junior à partir de 6 ans. Tendez l'oreille, on vous fait de grandes révélations aujourd'hui.
Il existe un secret qu'un enfant n'a jamais entendu. C'est le secret le plus secret, le mieux gardé, le pire de tous.
On remarque alors les regards complices que les parents s'échangent ou leurs conversations qu'ils interrompent, bizarrement.
Si les choses se passent ainsi, c'est que les adultes détestent les enfants. Oui, oui, tous les adultes, ils les détestent. Tous les enfants.
Alors oui, ça fait un choc de le découvrir comme ça, mais voyez par vous-même, ils sont tout le temps en train de l'y disputer.
Ils ne comprennent pas ce besoin qu'ont les enfants de courir dans tous les sens en braillant, de poser sans cesse des questions, de demander des histoires, alors que c'est le début du film à la télé.
C'est Kléber, 6 ans 3 quarts, qui a découvert le premier ce secret en observant autour de lui.
Par exemple, sa mère disait
« Finis tes légumes, il reste 3 fois rien !»
Et Kléber voyait bien que son assiette était encore à moitié pleine de haricots verts.
La seule qui n'avait pas l'air de détester les enfants, c'est sa mamie Tartine. Alors, il lui demande pourquoi les adultes les détestent. Évidemment, elle sourit.
Mais parce qu'ils ont oublié, ils ne se souviennent plus des enfants qu'ils étaient.
Kléber, lui, ne veut jamais oublier. Alors, il écrit des rappels sur les murs, dans les carnets, avant de se laisser conseiller par sa mamie.
C'est simple, ferme bien les yeux. Et répète après moi, n'oublie jamais, jamais, jamais.
Bon, sa concentration est vite contrariée par le délicat fumet de la tarte aux mirabelles de sa mamie. Et puis le temps passe, Kléber grandit, il devient adulte, il apprend des tas de choses, des langues, le code de la route, les capitales.
Et peu à peu, tandis que sa mémoire gonflait, il oublia qu'il avait été un enfant.
Alors quand lui-même a des enfants à son tour, il se met tout simplement à les détester.
Oh, surtout au début, quand il le réveillait au milieu de la nuit, faisant un caca mou dans leur couche et jeter leur purée sur les murs.
Alors bien sûr, il les aime du plus profond de son cœur, mais pour Kléber, bah, c'est différent, puisque l'odeur d'une tarte aux mirabelles saura à tout jamais lui rappeler son enfance. Nicolas Mathieu vient rappeler donc avec un brin de provocation, mais surtout beaucoup d'humanité et de poésie, bah, que tout parent a un jour été enfant. Et en amorçant son récit donc à hauteur de gamin, pour le clore à hauteur d'adulte, il éveille l'empathie. Il octroie le dernier mot au plus jeune grâce à sa convocation de la magie proustienne.
Et les illustrations, Denis ?
Et bah, Pierre-Henri Gaumont apporte à ce récit intemporel ses touches de modernité, d'humour et d'énergie avec un style très très BD. Donc Le Secret des Parents, c'est résolument un album familial indispensable pour ne pas perdre son âme d'enfant, vous l'avez compris. Chez Actes Sud Junior, c'est à partir de 6 ans. Chez nous, de Jin Jo et Jin Ki-young aux éditions La Joie de Lire, ça c'est pour les 5-8 ans. Au milieu d'une ville, un écrin de verdure abrite un zoo pas comme les autres. Des animaux y vivent paisiblement, environnés de grandes tours.
« Nous sommes bien nourris, disent les girafes. »«
Nous buvons le thé avec distinction, affirment les paons autour d'une table. »«
Nous faisons nos besoins dans l'intimité, sur des WC, précise le putois. »«
Nous barbotons dans l'eau toute la journée, sourient les ratons laveurs. »«
Nous sommes libres de jouer, essayent de nous persuader les singes. » »«
Ça semble être la fête chez les caméléons, cotillons et serpentins. » »«
Les éléphants habitent dans une grande et vaste demeure, tandis que le guépard s'entraîne sur un tapis de course.
Bref, tout le monde animal a l'air cool, gentiment assoupi, peut-être au cœur d'une comédie.
C'est notre maison.
Vraiment ? Et alors là, double page, avec tous les animaux délivrés de leur apparat humain, ils s'unissent pour nous révéler le seul endroit au monde qui leur correspond vraiment, et on ouvre les portes de leur liberté, de leur paysage originel, en pleine nature sauvage.
Et non pas le parc à thème où ils sont réduits à imiter les habitudes des humains.
Alors douceur des illustrations qui débouchent sur un propos percutant.
Respectez-nous en nous laissant dans nos milieux.
Album donc qui sensibilise à la question de la protection animale, de la maltraitance, même en prison dorée, dans une incarcération opulente. Les animaux ne sont pas des choses au service de nos plaisirs égoïstes. Alors c'est efficace, c'est incisif et ça percute au passage la grande bourgeoisie. Donc jolie réussite de ces deux créatrices coréennes, chez nous aux éditions La Joie de Lire. C'est pour les 5-8 ans. Merci à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Bah, nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis Chessou, et pour retrouver les références des livres cités, on clique sur le site de France Inter à la rubrique « L'as-tu lu mon petit loup ?». Voilà qui nous conduit tout naturellement à ma dernière question pour mes invités. Question rituelle de Barbatruc. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Johanna Kaufmann.
Alors moi elle est vraiment évidente et hyper puissante, c'est celle du poivron grillé au four, celui dont on enlève la peau, qu'on prépare à l'huile d'olive, à l'ail et tout ça. Mais en fait c'est pas l'odeur du plat qui me reste, c'est l'odeur qui flotte dans les escaliers, dans les immeubles, et que je sentais à la fois avant d'aller chez ma grand-mère, et que j'ai senti par surprise en allant ailleurs et en me disant, mais tiens, dans cet immeuble, il y a d'autres familles qui ont les mêmes traditions culinaires que la mienne, et voilà, ça reste. Et d'ailleurs, j'adore les odeurs de tambouille d'immeubles, je trouve ça merveilleux.
Esther El Payani, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Alors, Johanna m'a coupé le poivron sous le pied.
Mais non. Vous aussi, c'était le poivron.
Bah, parce que ma mère les préparait à l'heure du petit déj, en fait, sur le feu. C'était ça. C'était l'odeur avec laquelle je me levais. Mais alors, l'autre odeur, ça va être plus l'odeur de l'anchois. Vous savez, cette odeur d'anchois au sel, parce qu'effectivement, ma mère aime tellement ça qu'elle peut les manger au petit-déj. Mais c'est aussi un plat que préparait mon père le dimanche. Il faisait des quichés aux anchois, c'est-à-dire on fait fondre des anchois à l'huile dans la casserole, on fait une sorte de pâte, on en tartine des petits croûtons qu'on passe au four. Mmh. Et pour moi, ça a le goût. Certains, ça serait le poulet rôti du dimanche. Bah, c'est un peu ces quichés aux anchois. Ça, cette odeur du repas du dimanche, en fait, qui flotte dans l'air. Un peu salé, un peu marin, on est au bord de la mer tout de suite dès qu'on les sent.
Poivron au four et quiché aux anchois, ces deux odeurs rejoignent tout naturellement notre recette secrète du parfum de l'enfance. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci mesdames de nous avoir ouvert des horizons joyeux pour cuisiner avec les enfants. Retournez chez Jojo, c'est le titre de votre dernier livre, Johanna Kaufmann, après Déjeuner chez Jojo. Tous les deux sont disponibles en vente sur votre site internet.
Oui.
On trouvera la référence sur le site de l'émission, bien sûr. Je recommande tout autant La cuisine des beaux restes, signée Estherelle Payani, 70 recettes pour ne rien jeter, édition Flammarion. Merci mesdames, très bonne journée et à bientôt sur France Inter.
Merci beaucoup.